Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 13 janvier, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Alors, en dehors de l'affaire des retraites, ce sont les mythologies ancestrales qui font la une de l'actualité ce matin. D'abord, la réunion qui va avoir lieu donc à Buckingham Palace autour de la reine, après effectivement ce qu'on appelle maintenant le Mexique. Et puis donc, autre mythologie qui est secouée, celle du Saint-Siège. Mon cher Marc Bourreau, bonjour. Avec un livre de Benoît XVI, le pape émérite, qui va sortir dans quelques jours, et qui dit stop à toute idée qui pourrait intervenir probablement chez le pape François de songer à l'ordination d'hommes mariés.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avis de gros temps sur le Saint-Siège, c'est inédit. Un ancien pape rompt silence sur le célibat des prêtres. Prise de position historique, Benoît XVI se dit opposé à l'ordination d'hommes mariés, comme le souhaite l'actuel souverain pontife François. Bonjour Charles Bonner.
Bonjour Marc.
Benoît XVI le fait donc dans un livre choc apparaître dans les jours qui viennent en France, et autant dire qu'il ne mâche pas ses mots.
Oui, si les non possum. « Je ne peux pas me taire », c'est le cri du cœur de l'ancien pape dans un livre écrit avec le cardinal Robert Sarra. Les deux hommes d'église s'engagent contre le mariage des prêtres. La raison, eh bien, le célibat protège le mystère de l'église. Pour eux, l'église est en train de se laisser impressionner par de mauvais plaidoyers, des mises en scène et des mensonges diaboliques. Ce sont leurs mots. Un engagement donc inédit de Benoît XVI, 92 ans, retiré de son rôle de pape depuis 2013. Une prise de position alors que le pape François, son successeur, se penche sur cette question. Le synode consacré au manque de prêtres en Amazonie avait effectivement suggéré à cette solution. Alors pour le moment, rien ne dit qu'elle va concerner tous les prêtres. D'ailleurs, aucune décision n'est prise pour le moment. Le pape François va se pencher sur cette question dans les semaines à venir. Une question qui va devenir encore plus délicate maintenant qu'un ancien pape s'est immiscé dans le débat.
Merci Charles Bonner. Bernard Prenat, lui, devant la justice des hommes aujourd'hui, l'ancien prêtre comparé en correctionnel à Lyon pour agression sexuelle sur deux jeunes scouts. C'était entre les années 70 et 90, des agissements qui n'avaient pas été dénoncé par le cardinal Barbarin. Bernard Prenat risque jusqu'à 10 ans de prison.
Et puis si vous aimez la télévision et le cinéma, sachez à propos justement du pape dont nous venons de parler, du pape émérite, que The New Pope. Et ce soir sur Canal+, donc c'est la deuxième série sur le Vatican, réalisée par l'extraordinaire Paolo Sorrentino, l'homme de Youth ou de la Grande Bellezza, et arrive dans le rôle du nouveau pape aux côtés de Jude Law. Il paraît qu'il est extraordinaire, John Malkovich. Passons maintenant au 40e jour de grève. Et une question ce matin, va-t-on manquer de billets de banque ?
La CGT, premier syndicat de la Banque de France, dépose un préavis de grève reconductible à partir d'aujourd'hui. Débrayage dans deux centres de gestion en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Il représente plus d'un quart de la production de billets dans le pays. Et le mouvement pourrait s'étendre dans les jours à venir avec des conséquences rapides, selon Pascal Gabet, le délégué central adjoint CGT de la Banque de France, répond à Émilie Vallès.
Les banques, ça leur coûte cher de détenir des billets, donc elles en ont toujours très peu d'avance. Si nous, on interrompt les flux, assez vite, il peut y avoir une pénurie qui s'installe. On est dans un cadre d'un bras de fer avec le gouvernement. Donc notre objectif, c'est de contraindre le gouvernement de faire monter la pression. De nombreux secteurs se sont mis dans l'action, en particulier le pétrole, parce qu'ils ont une possibilité de bloquer. Eh bien, on décide d'entrer dans la danse et de s'y mettre et de tout bloquer.
Une mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit aussi chez les avocats. Ils sont reçus ce matin par la garde des Sceaux. Nette amélioration, en revanche, dans les transports. 80% des TGV, 70% des TER en circulation. À la RATP, l'ensemble des lignes de métro sont ouvertes, mais la plupart aux heures de pointe avec des risques de saturation.
Et à 7h33, bienvenue à vous tous. Et cette question un peu polémique que nous posons, Édouard Philippe a-t-il posé un piège, mon cher Marc, au syndicat réformiste ?
Et oui, 24 heures après le retrait provisoire de l'âge pivot, le Premier ministre a posé ses conditions hier soir aux 20h de France 2. Pas question de rétro-pédaler sur la réforme, notamment sur la question de l'équilibre financier du système. Non à une hausse du coût du travail, non à une baisse des pensions. En clair, la marge des manœuvres est étroite pour les syndicats en vue d'une conférence sur le financement. Pour Christian Saint-Etienne, c'est la preuve que ce retrait de l'âge pivot est avant tout une stratégie politique. Il est professeur d'économie au Conservatoire National des Arts et Métiers.
L'alternative à l'âge pivot, c'est soit augmenter les cotisations, soit baisser les prestations. Deux possibilités qui sont aussi désagréables l'une que l'autre. En enlevant l'âge pivot, ça va réduire la pression parce que on a les municipales à mi-mars. C'est une manœuvre, mais le gouvernement sait très bien qu'il n'y a pas d'alternative
active, un recul de l'âge de départ à la retraite.
Des propos recueillis par Victoire Fort.
La suite avec la stratégie anti-djihadiste au Sahel en question aujourd'hui à Pau.
Réunion du G5 Sahel en présence des chefs d'État concernés dans la région avec au cœur des discussions la place de l'armée française dans la lutte contre les combattants djihadistes. La présence de Paris est de plus en plus remise en cause par les populations sur place. Elle est pourtant indispensable, même si la guerre contre les djihadistes ne sera jamais réellement gagnée. C'est ce que pense la géopolitologue Caroline Galacteros.
Ce ne sont plus des guerres qu'on gagne, ce sont des guerres que l'on mène et qui se font dans la durée. Elles restent extrêmement efficaces. Nous avons quand même 4500 hommes, nous, Français, sur zone. Nous formons aussi les forces dans le cadre de l'opération G5 Sahel, parce que l'idée, c'est évidemment qu'à un moment donné, les armées de ces pays puissent prendre le relais ou en tout cas travailler véritablement en appui des nôtres.
Caroline Galacteros, la présidente du think tank Géopragma. Le torchon brûle, Guillaume, chez les Windsor. Les murs vont trembler aujourd'hui.
On va parler avec Dimitri Pavlenko dans les spécialistes dans un instant.
Dans un instant, les murs vont trembler à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre. Réunion de crise après la décision choc d'Harry et Meghan de se mettre en retrait de leurs obligations royales. La reine convoque sa garde rapprochée. Harry, William et leur père Charles seront présents.
Des habitants des Côtes d'Armor se battent, mon cher Marc, pour préserver leur chapelle Sixtine bretonne.
La chapelle Sainte-Suzanne, en l'occurrence. Un petit joyau basé à Guerlédan. Les habitants de la commune lancent un appel aux dons pour payer les travaux de réfection. La facture est lourde, 800 000 euros et l'argent alloué dans le cadre du loto du patrimoine ne suffira pas, selon Jean-Yves Lemeur, le président de l'association de sauvegarde de la chapelle Sainte-Suzanne, répond à Eric Koch.
C'est une chapelle remarquable surtout pour une chose, c'est sa voûte. Ce sont des planches en bois sur lesquelles donc sont peintes des scènes de la Passion du Christ ou de la Sainte-Suzanne. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est la charpente. La charpente aurait baissé énormément. Elle pousse sur les murs et donc ça risquerait d'être dramatique. Les travaux seront très importants et M. Bern, en fait, son action se limite à un pourcentage du montant des travaux. Ça ne suffira pas parce que les travaux seront très importants. Combien il nous faut le maximum, j'ai envie de dire, pour diminuer le reste à charge de la commune.
Et on termine, Guillaume, par ce match spectaculaire hier soir. En clôture de la 20e journée de Ligue 1 de football, le PSG concède son premier match nul de la saison à domicile contre Monaco. Score final 3-3.
La première mi-temps était phénoménale.
Phénoménal. Et le Paris Saint-Germain reste toutefois en tête du championnat devant Marseille et Rennes.
Voilà, et tous ceux qui aiment la littérature, puisque nous sommes un 13 janvier, pourront savoir que James Joyce est mort malheureusement un 13 janvier 1941 dans la ville de Zurich, en Suisse. Il avait vécu, évidemment, il est né à Dublin, dans la banlieue de Dublin. Il a s'est promené à Paris pendant des années, à Trieste, à Rome. Et donc, il est revenu mourir à Zurich. C'est l'auteur du Ulysse de Finnegan's Wake, c'est difficile à prononcer, de Portrait de l'artiste en jeune homme et des gens de Dublin qui étaient sortis en 1941. Hommage à l'un de ceux qui a révolutionné la littérature, donc au XXe siècle. Les 7h37, voici la reine d'Angleterre.